Isabelle Bresse.
Sud Radio.
C'est vous.
C'est vous.
Bonjour à vous qui nous rejoignez dans cette deuxième heure. Nous sommes toujours en direct du sublime hôtel Koh-i-Noor à Val Thorens. On est mercredi et on parle des enfants. Ces enfants que l'on aimerait parfaits pour leur bien, bien sûr. On les rêve bons à l'école, jouant de plusieurs instruments, sportifs, un esprit sain dans un corps sain. Mais est-ce que c'est bon de pousser nos enfants à l'excellence et comment faire pour bien les encourager sans leur mettre une pression qui pourrait leur faire plus de mal que de bien? Eh bien, on en parle tout de suite avec Joël Clerget, psychanalyste et auteur de « Vivre l'ennui à l'école ». Ainsi qu'Olivier Gauthier, le directeur de l'école de Tersac, sera également avec nous. Et on aura plusieurs témoignages, celui d'Alexandra notamment, qui a un blog qui s'appelle « Les tribulations d'un petit zèbre », l'heureuse maman d'un petit garçon avec des capacités peut-être, un petit garçon qu'on appelle précoce finalement. Restez avec nous, à tout de suite en direct de Val Thorens.
Isabelle Bresse.
Sud Radio, c'est vous.
Et nous sommes toujours en direct de Val Thorens, de l'hôtel Koh-i-Noor. Et comme c'est mercredi, évidemment, on parle de vos enfants. Est-ce que c'est bon de les pousser à l'excellence? Évidemment, on veut le meilleur pour eux. Mais est-ce que c'est bien, finalement, de vouloir toujours les pousser un peu plus loin? On est avec Joël Clerget. Bonjour Joël, bienvenue sur Sud Radio.
Oui, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes psychanalyste et auteur de « Vivre l'ennui à l'école et ailleurs ». Et effectivement, c'est un sujet qui vous tient à cœur, ça, le fait de savoir comment pousser ses enfants. Est-ce qu'il faut les pousser? Est-ce que c'est bon, d'ailleurs?
Alors, le souci avec le mot d'excellence, c'est qu'il peut être ambigu, comme vous le dites vraiment vous-même, il peut se retourner contre la fin visée. En fait, l'excellence, c'est une visée. Hein ?
Oui.
Et c'est pas, bon, forcément quelque chose, une réalité toujours acquise. Et comme vous disiez assez justement, si on pousse trop un enfant dans ce que l'on veut soi-même pour lui, il y a des chances que ça se retourne contre le projet lui-même, quoi. Hein ? Alors, je dirais que l'excellence, ça se gagne avec un entourage qui est porteur de projet, porteur d'accompagnement aussi. Mmh. Et puis, je dirais que l'excellence de nos enfants, elle est liée aussi à ce que l'on engage avec eux, de telle sorte qu'ils parviennent à réaliser leur potentialité. C'est ça qui importe, en fait. Hein.
Alors, finalement, ce que vous dites, c'est que l'excellence de nos enfants, elle dépend de leur plaisir et de leur volonté à eux.
Oui, beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'excellence de la part des enfants sans la mise en jeu de leur désir de réaliser quelque chose qui leur appartienne bien en propre, quoi. Oui, ça, très fondamentalement, je pense ça.
Eh oui, alors Joël, on est également avec Olivier Gauthier. Bonjour Olivier, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vous êtes directeur de l'école de Tersac, qui est une école où effectivement l'excellence est un petit peu le mot d'ordre, mais pas n'importe comment et à n'importe quel prix, j'imagine.
Oui, vous avez tout à fait raison. Hein. Je crois que là, le débat est lancé sur l'excellence académique, c'est-à-dire avoir de bons élèves, de bonnes notes, de bonnes mentions, de bonnes prépas, etc. Mais ce n'est pas ça, pour moi, le plus important. Je crois que l'excellence, c'est avant tout l'excellence morale liée directement à l'éthique. Moi, j'aurais toujours une préférence pour de jeunes gens qui sont bien élevés, bien équilibrés et qui, plus tard, vont pouvoir véritablement rayonner en famille, avec les autres et plus tard dans le monde professionnel et le monde dans l'entreprise. Donc, il faut faire très attention, surtout au moment de l'adolescence, sur ce qu'on essaye de mettre dans l'excellence.
Eh oui. Alors, on est également avec Paul. Bonjour Paul, bienvenue sur Sud Radio. Alors Paul, toi tu es dans une école où effectivement l'excellence est le maître mot, puisque tu es au collège Henri IV, qui est un collège très réputé, qui est l'une des meilleures écoles en France. Qu'est-ce qu'on demande aux élèves? Est-ce que c'est un collège où tu trouves qu'on fait attention à ce que veulent les élèves, à leur bien-être, ou est-ce que tu trouves qu'on pousse vraiment les élèves à être très très forts dans toutes les matières et c'est ça qui compte et rien d'autre?
Bah, je pense que c'est plutôt l'idée reçue justement par les adultes que Henri IV, il pousse ses élèves et tout, alors que c'est pas vraiment le cas.
C'est-à-dire, comment tu perçois les choses? Toi, t'es en cinquième, donc?
Bah, d'accord, ils donnent pas mal de devoirs, pas mal de cours, ils font bien travailler, beaucoup, mais ils nous demandent pas d'avoir tout le temps des 18, si on a en dessous, c'est vraiment pas bien. C'est en fonction du niveau des élèves. à Zemplin qui va commencer à 5 et qui va avoir 8 au prochain contrôle, bah, ils vont dire quand même c'est bien que ça améliore, c'est pas « Ah non, c'est pas 18 ».
Oui, mais au bout d'un moment, il y a une sélection qui se fait parce qu'au collège, c'est sectorisé. Donc, si tu habites dans le quartier où il y a Henri IV, ben, tu y es. Mais à partir de la seconde, il y a une vraie sélection qui se fait.
Oui, ben, bon, après, il y a certains élèves qui sont bons, d'autres moins bons. Ben, les moins bons, ils iront autre part. Et c'est dommage, mais bon.
Mmh. Et toi, ça t'inquiète, ça ? La seconde, c'est dans 2 ans. Bon, c'est pas tout de suite.
Non.
Mais si on t'envoie ailleurs, c'est embêtant ou c'est pas embêtant ?
C'est embêtant parce que j'aurai plus mes amis, mais je ne vais pas me dire que c'est embêtant parce que non, je vais quitter le plus grand collège de France.
Ouais, ça, ça ne te pose pas de problème. Et ça se trouve, tes amis, ça se trouve, ils vont partir en même temps que toi. Hein. Et du coup, vous allez vous retrouver dans le même lycée, vous allez pouvoir continuer à faire les 400 coups ensemble. Hein. T'es plutôt un bon élève ou plutôt un élève moyen, un mauvais élève ?
Plutôt bon élève, ça va.
Ouais. Et au niveau de la discipline, ça va aussi ?
Joker.
On est également avec Alexandra. Bonjour Alexandra, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle.
Alexandra, vous avez un blog qui s'appelle Les Tribulations d'un petit zèbre. On vous a déjà eu dans cette émission et c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Et vous avez un petit garçon, vous, qui a été découvert précoce il y a quelques années. Et votre enfant, si ma mémoire est bonne, il a 11 ans, il est en 3e, il a sauté 3 classes.
C'est ça, exactement. Donc là, il vient d'avoir 12 ans, mais théoriquement, il devrait être en 6e cette année.
D'accord. Et alors, comment ça s'est passé, le saut de classe ? Il est précoce, mais qui dit précoce ne veut pas dire obligatoirement sauter des classes, être très bon à l'école. Il y a même beaucoup d'enfants précoces qui sont en échec scolaire.
Exactement, oui. Souvent, il y a une confusion dans l'esprit des gens entre haut potentiel intellectuel et justement excellence, ou en tout cas très bonne performance scolaire. Or, ça n'est pas du tout le cas. Il y a de tout, en fait. Hein. Il y a des enfants surdoués qui sont très bons à l'école, il y en a évidemment, il y en a d'autres aussi qui sont tout à fait normaux, moyens et qui passent d'ailleurs aussi tout à fait inaperçus des fois jusqu'à l'âge adulte et qui ont une scolarité parfaitement, on va dire qui se noient dans la masse, d'autres qui sont en échec, alors des fois pour des problèmes de troubles d'apprentissage et des fois simplement par désintérêt ou pour d'autres raisons, donc il y a vraiment de tout à ce niveau-là et donc effectivement c'est pas forcément précocité intellectuelle ne veut pas forcément dire saut de classe et il faut que le saut de classe finalement réponde à un vrai besoin de l'enfant et non que ça soit envisagé finalement comme un automatisme parce que si finalement l'enfant est dans un contexte qui le stimule suffisamment sur le plan enfin qui le nourrit intellectuellement parlant, finalement le saut de classe n'est pas forcément utile. Et puis après il y a des enfants aussi qui ne veulent pas sauter des classes ou sauter une classe parce qu'ils ont un groupe, ils sont très, bien intégrés sur le plan social, ils ont un groupe d'amis auquel ils tiennent. Donc c'est vraiment très variable et c'est au cas par cas.
Mmh. Comment est-ce que vous avez pris la décision pour le vôtre de lui faire sauter des classes ? 3 classes, c'est quand même pas rien. Hein. Sauter une classe, déjà, c'est pas mal. Mais 3 classes, ça veut dire qu'en dehors des résultats scolaires, il y a aussi le problème de se faire des copains parce que les copains, ils sont tous beaucoup plus âgés et tout. Est-ce qu'il arrive bien à s'intégrer ?
Alors, cette année, c'est un petit peu particulier puisqu'il fait une année de scolarisation à la maison. Il s'est plutôt bien intégré parmi les élèves, ça n'a jamais posé de problème jusqu'à la fin du primaire où il avait déjà 2 années d'avance. Hein. La 3e année d'avance, il l'a eu au collège, mais en fin de primaire, il a sauté le CP, le CM1 et la 4e. Et donc la décision s'est prise en fait tout simplement, enfin pour le premier saut de classe, il savait lire déjà à 4 ans en moyenne section. Donc il a fait toutes les années de maternelle tout à fait normalement et l'année de grande section a vraiment été l'année de trop en définitive pour lui parce que il se sentait tout à fait inutile si on peut dire à l'école.
Il s'ennuyait évidemment, il savait déjà tout.
L'ennui en fait, honnêtement l'ennui finalement, tous les parents vont dire oui moi aussi mon enfant me dit qu'il s'ennuie. Le problème avec un enfant à très haut QI, en tout cas quand il n'y a pas de troubles annexes de l'apprentissage, hein, parce que les enfants précoces peuvent aussi cumuler des troubles et donc il faut quand même bien faire la distinction finalement entre un enfant qui a un haut potentiel intellectuel et des troubles type 10 ou TDAH par exemple, et un enfant qui n'en a pas et qui donc va finalement assez mal supporté d'avoir le sentiment de faire du surplace. Donc c'est pas juste de l'ennui comme la plupart des enfants peuvent le ressortir à certains moments, c'est véritablement presque une dépression, c'est-à-dire que l'enfant en fait se renferme sur lui-même et a l'impression de ne absolument rien faire de ses journées. Et 6 heures par jour pour un enfant à ne rien faire et à avoir l'impression de regarder autour de lui les autres finalement être dans leur élément et lui être complètement en dehors parce qu'il se sent ça ne l'intéresse pas, tout simplement coller des gommettes par exemple, un enfant qui sait déjà lire à 4 ans ça ne l'intéresse pas, ou faire des comptines, ça paraît bête à dire, mais en définitive les enfants doués vont être très spontanément en fait dans une intellectualisation très forte dans beaucoup de domaines, et donc voilà, c'est pas juste un ennui classique qu'on va pouvoir rencontrer chez beaucoup d'enfants qui vont dire par-ci par-là, oui, je m'ennuie à l'école. Bien sûr que le rythme peut sembler lent à certains enfants, enfin, on va dire à des enfants même tout à fait dans la norme par moment. Le problème avec un enfant doué, c'est que ça va se reproduire tous les jours à longueur de temps et en plus en ayant le sentiment finalement de ne pas être à sa place, d'être en décalage continu avec les autres. Et ça, ils le perçoivent très très tôt. Définitive.
On est avec Paul également, Alexandra. Paul, tu as déjà ressenti ce sentiment de t'ennuyer en classe, de ne pas être à ta place?
En primaire, oui, parce que je trouve ça vraiment un peu facile. Tous les systèmes de contrôle ou quoi, pour moi, c'était bizarre parce que pendant une semaine ou deux, on va travailler sur deux leçons et puis à la fin, on a un contrôle. Donc, je trouvais ça facile puisqu'on travaillait dessus depuis deux semaines. Donc voilà. Mais après, quand je suis arrivée au collège, ça s'est corsé un peu plus. Du coup, je m'ennuie plus parce que c'est plus compliqué. Donc voilà.
Est-ce que tu es tout le temps attentif ou alors est-ce que tu fabriques des trucs avec ta gomme? Tu fabriques des catapultes?
Oui, en maths. Seulement.
Oui, mais tu es fort en maths.
Oui.
Olivier Gauthier, c'est vrai qu'on ne peut pas demander, c'est ce que disait Alexandra, la même chose à tous les enfants. Est-ce qu'à Tersac, on fait attention à ça?
Alors effectivement, aucun élève ne se ressemble, aucune personnalité ne se ressemble. Et il faut adapter suivant les personnalités. Alors effectivement, sur les précoces, je rejoins ce qu'Alexandra a pu dire, il faut nourrir ses enfants. Il y a effectivement des possibilités d'échec. Alors nous, on fait des emplois un peu différenciés. Et quelquefois, on leur donne du travail dans des matières qu'ils ne connaissent pas, comme la culture générale d'actualité. Et là, ils ont des champs d'investigation qui sont beaucoup plus larges. Il faut leur donner l'intérêt et le goût de l'effort sans trop les ennuyer.
Et ça, c'est pas facile. Comment est-ce qu'on arrive à repérer un enfant qui a des facilités à l'école? Précoce, ça m'ennuie un peu, je sais pas ce qu'en pense Alexandra, d'utiliser ce terme de précoce, parce que chez les enfants précoces, il y a des enfants qui ont des difficultés, qui sont en difficulté, en échec scolaire même parfois. Donc plutôt ces enfants qui ont des facilités à l'école, comment est-ce que vous faites pour les repérer?
Alors à entendre la quasi-totalité des parents, j'exagère un peu, tous les enfants sont intelligents. Si on était un peuple si intelligent, on n'aurait certainement pas 6 millions de chômeurs. Bon, ça c'est dit en passant.
Il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons au chômage. Uniquement lié à l'intelligence, heureusement.
Oui, oui. Non, je plaisante. Alors effectivement, on peut le voir dans le discours des parents. Alors attention aussi à l'ego des uns et des autres. Après, on peut le voir dans les appréciations qui ont été données par les enseignants. Et moi, il y a un entretien d'une heure au moment de l'entrée à l'école, au collège et au lycée. À ce moment-là, je sens quand même les aspirations des uns et des autres. Mais ce qui me semble important, au-delà des notes et des appréciations, c'est aussi les goûts qui sont en dehors du collège et du lycée, des sports pratiqués et de la façon dont ils peuvent se comporter dans un groupe.
Alors Joël Clerget, effectivement on entend ces discours sur les enfants qui peuvent avoir des facilités et tout. Qu'est-ce que vous dites vous aux parents? On parlait de l'ennui, alors ça c'est vraiment un sujet de prédilection puisque vous êtes l'auteur de Vivre l'ennui à l'école et ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents dont les enfants s'ennuient à l'école?
Alors ce que Alexandra faisait très bien remarquer, il faut différencier l'ennui, je dirais, assez coutumier qui est inéluctable. Et même les enfants que nous avions, les jeunes que nous avions interrogés, pensaient que c'était un point de passage nécessaire, y compris à l'école. Ce qui vient d'être dit là par Alexandra, comme avec Olivier Gauthier, et même comme Paul, c'est qu'en fait, effectivement, chaque élève est singulier, donc c'est la singularité de chacun. Et je crois qu'ils disent très bien, Alexandra dit très bien, ne rien faire et ne pas être à sa place est très délicat dans la vie de tout le monde, hein, d'ailleurs des enfants comme de nous-mêmes, parce que ne rien faire, c'est qu'on n'est pas connecté à une réalisation de soi dans une action ou dans un acte, vous voyez, éventuellement dans un résultat tangible, et puis ne pas être à sa place, ça pose la question du lieu d'être. Et quand on est bien nulle part, on n'est pas bien tout bonnement, tout simplement dans la vie, quoi. Hein. Je crois que chacun sera d'accord pour dire que l'excellence que l'on peut chercher à atteindre, c'est d'abord une question d'être et ensuite une application à la dimension de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut réaliser, de ce que l'on peut entreprendre, quoi.
Hein? En tout cas, et Joël, je pense qu'on peut le dire, tous les enfants sont doués pour quelque chose, il suffit simplement d'aller chercher pourquoi ils sont doués.
Alors gros problème, je suis tout à fait d'accord avec ça, je pense que tous les enfants ont des capacités en une matière ou une autre. Le problème est que c'est pas forcément l'école ou par l'école que ces capacités-là et ces possibilités-là sont révélées. C'est la grosse question pour un certain nombre. Comme le disait Olivier Gauthier, il faut trouver effectivement les points d'ancrage dans ce qui intéresse un enfant ou un jeune et dans ce dans quoi ou pourquoi il a du goût. Hein, ça peut être très varié parce que si vous voulez, même si on passe pas dans une évaluation et dans quelque chose qui est une distribution de bons points, on apprécie aussi ce qu'on fait dans la vie par le fait qu'on arrive précisément à réaliser un minimum de choses, quoi, que ce soit sous une modalité ou une autre. Hein.
Bien sûr. Joël Clergé, vous restez avec nous, on continue à parler de l'excellence chez nos enfants. Est-ce qu'il faut pousser nos enfants à l'excellence ou pas? Est-ce que c'est bien? On reste avec Alexandra du blog Les Tribulations d'un petit zèbre. Olivier Gauthier est également avec nous de l'école de Tersac. Et puis Paul et Camille viennent nous rejoindre, sont avec nous également. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio,
c'est vous.
C'est vous.
Isabelle Brasse.
Et nous sommes de retour, toujours en direct de Val Thorens. On est toujours avec Paul, avec Camille qui vient de nous rejoindre. Joël Clergé, psychanalyste, auteur de Vivre l'ennui à l'école et ailleurs. Également avec Alexandra qui a un blog, Les Tribulations d'un petit zèbre, dont l'enfant a été détecté précoce. Il a 12 ans, il est en 3e, il a sauté 3 classes. Et on est toujours avec Olivier Gauthier, directeur de l'école de Tersac. Olivier, c'est vrai que aussi il y a un problème, c'est que les enfants ne comprennent pas toujours l'intérêt de l'école. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est directeur d'école et qu'on est face à un enfant qui peut avoir des capacités, qui peut être intelligent, on voit qu'il est capable de faire plein de choses, mais il ne comprend pas l'intérêt d'être à l'école?
Il faut essayer de l'amener à découvrir, hein, de sortir un peu du manuel scolaire et l'amener sur d'autres terrains. Un voyage scolaire, une visite de musée. Nous, par exemple, tous les après-midi, on a, entre autres, au-delà du sport, on a des ateliers nomades. Un jour, ils vont visiter un apiculteur. Le lendemain, ça sera une galerie d'art contemporain, etc. Et peu à peu, ils vont accumuler des connaissances et l'envie de découvrir autre chose. Et puis après, il faut que l'école soit sympa, c'est-à-dire qu'il y ait un vrai projet d'établissement. Moi, je dirige un internat, c'est quelque chose d'assez structurant et c'est beaucoup plus facile, à mon sens, que de mettre un projet d'établissement, par exemple, en demi-pension ou en externat.
Et moi, je trouve, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, que le rôle du professeur est très important aussi. Il y a des professeurs qui sont très engagés, qui donnent envie aux enfants. On est avec Camille. Camille, bonjour, bienvenue sur Sud Radio.
Oui.
Alors Camille, tu es en CE2 et toi, CP, CE1, tu as eu des maîtresses qui t'ont pas du tout donné envie d'apprendre à l'école.
Pas du tout.
Et là, en CE2, tu as une super maîtresse et là, tout à coup, tu as envie de travailler et tu travailles plutôt super bien maintenant.
Oui, c'est vrai qu'en CP, ma maîtresse, elle n'était pas cool.
Et en CP, elle n'était pas cool et du coup, tu avais envie de travailler toi ou pas tellement?
Pas tellement parce que, comme elle était très méchante, à chaque fois elle nous faisait apprendre, elle nous criait dessus. Donc
c'est sûr que t'as pas envie. Et là, qu'est-ce qui te donne envie d'apprendre avec ta maîtresse cette année?
Du coup, quand elle nous donne à apprendre et qu'on comprend pas, elle nous explique et tout ça, donc ça donne envie d'apprendre ça.
Eh oui, c'est sûr. Et puis elle est gentille.
Oui.
Elle t'encourage quand tu travailles bien à l'école. Elle te dit c'est bien, Camille, oui. Tu as bien travaillé. Et même quand tu réussis pas très très bien, parfois tu me disais que elle t'encourage quand même. Ouais. Tu réussis pas très très bien, mais t'as fait un effort. Alors du coup, elle te dit c'est bien, t'as fait un effort.
Oui, c'est ça.
Et ça te donne envie de travailler, ça ?
Oui, vraiment.
Et toi, Paul, c'est important aussi ce que te transmettent tes professeurs à l'école ?
Oui, et aussi il y a certains professeurs qui on est toujours actif dans la classe, on a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à écouter, alors qu'il y a d'autres professeurs qui pour moi et pour les autres de ma classe parlent de trop, donc c'est lourd et on s'ennuie et c'est lent. Et donc c'est sûr que là, on se désintéresse totalement du cours. Et
puis il y a des professeurs qui sont très durs aussi et puis des sous-professeurs qui sont plus sympas.
Ouais.
Et forcément, ceux qui sont très durs, ça vous démotive un peu, j'imagine.
Oui, ils sont très durs, après, quand on est au collège, on sait que... on doit travailler et tout, donc peu importe si le professeur va être très très dur, on va toujours essayer de faire notre mieux, mais s'il est trop dur, c'est sûr qu'on va avoir des mauvaises notes. Par exemple, dans ma classe, on a une prof d'histoire géo qui pense que c'est nous qui sommes nuls, que si la moyenne de la classe est faible, c'est de notre faute, mais bon.
Eh oui.
Si toute une classe au collège Henri IV à des mauvaises notes, c'est peut-être aussi un peu de sa faute.
Ah oui, c'est ça. Joël Clerget, c'est vrai ce que disent Paul et Camille. Les professeurs n'ont peut-être pas toujours, même s'il y en a beaucoup, et vraiment, on le dit, on le redit, le métier d'enseignant est un métier qu'on admire énormément ici à Sud Radio. On a d'ailleurs consacré plusieurs émissions sur ce thème. On a eu Olivier Gauthier plusieurs fois, etc. Mais certains professeurs ne se rendent pas toujours compte de leur importance dans la vie de l'enfant et de l'importance des remarques qu'ils peuvent faire dans le bon sens ou dans le mauvais sens, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Je crois que ce qu'ils disent aussi bien Camille que Paul, c'est que la transmission des choses qu'on acquiert à l'école ou au collège, elle se fait dans une relation. Mmh. Et Paul dit très bien, si c'est très dur, c'est supportable. Si c'est trop dur, ça ne l'est plus, quoi. Ça devient injuste. Ce dont je crois que les professeurs ne se rendent pas toujours compte, c'est qu'une remarque parfois décalée sur des résultats peut blesser un élève, surtout s'il la trouve pas juste, et le mettre très en colère, mais il n'aura pas la possibilité d'exprimer sa colère. Donc du coup, ça lui reste un peu en travers, et c'est vrai qu'on apprend, mais des choses de la vie aussi, pas seulement à l'école, en relation avec des gens qui nous donnent l'envie de connaître, l'envie d'apprendre. Je sais pas si quelqu'un vient vous voir en disant à un ami, tiens, j'ai lu tel livre, tu devrais lire, c'est super intéressant, ça vous donne envie de le lire, parce que lui, il est convaincu, et il vous entraîne aussi dans ce qu'il a découvert pour lui-même.
Et c'est vrai ce que disait Camille aussi, en CP et en CE1, il a eu des maîtresses pas très cool, qui ne l'encourageaient pas, etc. Donc du coup, il n'avait pas spécialement envie de travailler. Alors que celle qu'il a en CE2, même quand ses résultats ne sont pas géniaux, elle l'encourage, elle lui dit « c'est bien, Camille, t'as bien travaillé, t'as fait des efforts, tu peux mieux faire, mais c'est déjà super ». Et ça, pour les enfants, c'est formidable, parce qu'ils ont encore envie de prouver qu'ils peuvent faire mieux.
C'est-à-dire que, évidemment, par rapport à la recherche de ce qu'un élève veut aussi pour lui-même, s'il est découragé, il se désespère, quoi. Hein, ça touche aussi sa vie, ça touche pas que sa vie à l'école, ça touche sa vie de façon globale, quoi. Hein.
Et c'est vrai qu'un professeur, on peut garder en mémoire le souvenir d'un professeur toute sa vie. Il y a des professeurs qui nous ont marqués.
On a tous des
images de professeurs qui nous ont marqués comme ça à vie, en nous laissant une empreinte, soit positive, soit négative d'ailleurs.
Oui, d'un côté comme de l'autre, absolument.
Ça, moi j'ai le souvenir d'un professeur d'espagnol qui nous mettait des notes négatives. On se retrouve avec des moyennes de moins 40, moins 60, impossible à remonter. Et c'est vrai qu'il nous a dégoûté de l'espagnol à vie. Olivier Gauthier, c'est important pour vous, ça, de faire attention à ce que vos professeurs soient justes ?
Oui, tout à fait. Je rejoins ce que disait Joël Clerget. Attention à la vexation envers des adolescents. On est sur un terrain relativement fragile sur le plan psychologique. Hein, donc, il faut faire très attention. Moi, j'ai la consigne qui est donnée à l'ensemble de mes enseignants. Lorsqu'on a moins de 6, on ne donne pas la note. On dit moins de 6 et je leur interdis de commettre une vexation par rapport aux élèves. Mais à contrario, il y a chez nous des récompenses, il y a des tableaux d'honneur, il y a 6 tableaux d'honneur par an. trois bulletins trimestriels et trois examens blancs, et il y a une véritable distribution des prix mi-juin. Ben, je peux vous dire que c'est un succès énorme parce que les élèves aiment être aussi se sentir valorisés et se sentir en progression.
Ah mais moi je suis pour les bons points, les tableaux d'honneur, les images, tout ce qui valorise les enfants. Vous avez ça Paul et Camille dans vos écoles, des tableaux d'honneur, des choses comme ça, des récompenses Camille?
Moi en CP en fait quand je réussissais quelque chose, on avait des bons points, c'était des sortes de petites images qu'on mettait dans une petite boîte. Mais maintenant en fait en CE2, moi ce qui m'encourage vraiment, en fait ma maîtresse elle me dit plus trop... allez Camille, vas-y, c'est que, en fait, comme elle dit, tu travailles très bien, c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'avant, en fait, continue comme ça, vraiment. Depuis cette année, elle m'a plus dit, allez Camille, tu peux continuer, c'est plus très bien. J'ai plus beaucoup de...
Bah parce que tu travailles bien, finalement. Elle t'a tellement bien encouragée depuis le début de l'année que là, ça y est, tu t'es mis à niveau. Et Paul, il y a des récompenses dans ton collège? Ou en primaire, il y avait des récompenses?
En primaire, il y avait des récompenses. En CP, CE1, CE2, ça marchait... non, CP, CE1, ouais. Ça marchait avec... on avait des points verts. Au bout de 10 points verts, on avait une image. Au bout de 10 images, on avait un petit cadeau. Ça pouvait être un bonbon...
Et c'est plutôt pas mal. Oui, Camille.
Et en fait, comme Paul disait, on avait un bonbon, des tirelires, enfin des trucs.
Un petit cadeau que vous offrez la maîtresse.
Ça servait à rien parce que ça nous encourageait pas, à part.
Oh bah dis donc.
À part. Je sais pas, c'est bizarre. Moi aussi, je peux faire. Ah, t'as bien travaillé. Je vais te donner ma Lamborghini.
Moi, j'étais contente quand j'étais en CP. J'étais très contente pour avoir des bons points et des images. Dans un instant, on va voir avec Alexandra comment ça se passe l'école à la maison. Donc, si j'ai bien compris, Alexandra, votre enfant là maintenant, il est à la maison.
Oui, c'est ça, pour cette année en tout cas.
Alors, vous allez nous dire comment ça se passe l'école à la maison et puis à quel moment vous pensez qu'il va retourner à l'école ou pas. D'ailleurs, peut-être qu'il est très bien à la maison. On reste toujours avec Olivier Gauthier, directeur de l'école de Terssac, ainsi qu'avec Joël Clerget, psychanalyste et auteur de Vivre l'ennui à l'école et ailleurs. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse.
Nous sommes de retour. Si vous entendez des bruits étranges, ne vous étonnez pas. Il y a une tempête qui s'est levée à Val Thorens et donc on entend des bourrasques de vent. C'est assez impressionnant. Il fait quasiment nuit. On ne voit plus la montagne, on ne voit plus le village, mais on reste debout depuis l'hôtel le plus haut d'Europe. On est toujours avec Joël Clerget, auteur de Vivre l'ennui à l'école et ailleurs et psychanalyste. On est toujours avec Alexandra qui tient le blog Les Tribulations d'un petit zèbre. Et on est toujours avec Olivier Gauthier, directeur de l'école de Terssac, ainsi qu'avec Paul et avec Camille. Alors, on parle de l'excellence. Est-ce qu'il faut pousser nos enfants à l'excellence? Alexandra nous disait que son enfant a été détecté précoce, qu'il a sauté 3 classes, qu'aujourd'hui, il a 12 ans, il devrait être en 6e, mais en réalité, il est en 3e. Alors, Alexandra, comment on gère ça? Aujourd'hui, il est à la maison. C'est la première année où il est à la maison?
Oui, c'est la seule année. Alors, moi, j'ai toujours été plutôt contre... justement la scolarisation à la maison, dans le sens où je considère que tous les enfants doivent avoir la possibilité d'être scolarisés tout à fait normalement, quel que soit leur profil cognitif ou leur particularité, on va dire. Et pour moi, ça me semblait être justement une sorte de double peine, c'est-à-dire que j'ai toujours privilégié, justement, même dans les années où c'était plus compliqué, le maintien dans une scolarité classique, on va dire. Et puis bon, les événements de l'entrée au collège a été très douloureuse pour mon fils, puisque ça s'est toujours très bien passé sur le plan relationnel jusqu'en fin de primaire. Les enfants n'avaient absolument rien contre le fait qu'il ait des années d'avance. Et au collège, ça a été radicalement l'opposé, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il a été même agressé physiquement, verbalement, harcelé.
Pour quelle raison?
Je pense que le harcèlement, en définitive, il n'y a jamais tellement de raison à proprement parler. C'est-à-dire que lui était harcelé a été agressé certainement parce qu'il était une proie idéale du fait de ces deux années d'avance à l'époque, comme d'autres enfants vont être agressés ou harcelés parce qu'ils sont roux, parce qu'ils sont trop gros, trop maigres. Enfin, finalement, les raisons sont très très diverses. Mais les enfants précoces, comme les enfants avec autisme type Asperger, sont souvent en fait victimes de ça et souvent aussi finalement ne savent pas se défendre. Et l'affectivité, tout à l'heure on en parlait dans l'émission, et ça c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment extrêmement important, la notion d'injustice, la difficulté à supporter l'injustice et l'injustice qui touche les autres comme l'injustice qui les touche à eux, l'affectivité, c'est quelque chose d'extrêmement important, finalement au point de pouvoir faire que l'enfant tombe dans une phobie scolaire réelle. En fait, il y a énormément d'enfants doués qui à l'âge du collège vivent assez mal le décalage qu'ils ont avec les autres et ne comprennent pas forcément la méchanceté ou l'attitude un petit peu agressive que les autres vont parfois pouvoir avoir envers eux, en fait. Mmh. Et donc, ça s'est très très mal passé pour lui les deux premières années au collège, au point qu'il parle de suicide. C'était à un moment donné, finalement, il a fallu prendre une décision, c'est-à-dire que quand on est dans une situation comme celle-ci, on se demande jusqu'à quel point est-ce que l'enfant peut souffrir et jusqu'à quel point nous, on peut prendre le risque de se retrouver face à un problème. Alors moi, j'ai de la chance parce que le mien exprime beaucoup de choses, en tout cas face à nous. Certains enfants, malheureusement, on le sait, expriment moins les choses et puis passent à l'acte. C'est une réalité qui, je pense, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et j'ai même, par exemple, chez certains de mes lecteurs, des parents qui me rapportent que leurs enfants, des fois, dès l'âge de 6-7 ans, parlent de suicide, des enfants surdoués. Donc c'est quelque chose qui est quand même... Les problèmes à l'école peuvent en fait énormément impacter, effectivement, comme tout à l'heure, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était Joël Clerget ou Olivier Gauthier qui en parlait, mais c'est vraiment tristement vrai, c'est-à-dire que ce genre de problème, que ce soit problème relationnel vis-à-vis d'enseignants ou vis-à-vis d'autres élèves, ça peut impacter énormément en fait la vie de l'enfant et donc de la famille aussi, parce que derrière un enfant qui souffre, toute la famille souffre avec. Et donc voilà, nous c'est ce qui nous a amené finalement à prendre cette décision cette année de scolarisation à la maison pour pouvoir le laisser souffler et faire une sorte de break en fait dans quelque chose qui était devenu insoutenable pour lui, en fait.
Joël Clerget, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont en souffrance à l'école, soit parce qu'ils n'y arrivent pas en classe, soit parce qu'au contraire, ils peuvent être très bons à l'école et donc du coup, ils sont un peu marginalisés. Enfin, pour tout un tas de raisons, la différence, de toute façon, peut rendre un enfant malheureux. Comment est-ce qu'on détecte ces premiers signes, comment les parents peuvent faire? Parce que souvent, les enfants ne disent rien.
Alors c'est effectivement une des difficultés, mais je crois là que c'est vraiment un problème majeur, c'est que comme Alexandra décrit très bien, c'est que un enfant qui pour des raisons ou pour une raison ou pour une autre a des difficultés à l'école, quoi qu'il en soit, il en souffre. Alors il peut s'en défendre, il peut prendre ça à la légère, mais c'est peut-être que nous avons, nous les parents, à nous ouvrir à une souffrance possible, c'est-à-dire à être ouvert de cœur et d'oreille à ce qu'il peut vivre, c'est-à-dire à la possibilité qu'il dise ce qu'il vit. Parce que ce sont des enfants qui, paradoxalement, pour les petits notamment, mais comme disait Olivier Gauthier tout à l'heure, chez les adolescents, il y a une extrême sensibilité à tout cela, qui sont souvent très jalousés, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas leurs seuls résultats scolaires, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y en a qui scolairement ne réussissent pas très bien, mais pour une espèce de liberté qu'ils ont avec la vie, ou parfois une certaine distance, ils sont, quand Alexandra dit qu'il y a des enfants de 6-7 ans qui parlent de suicide, bien sûr, et c'est très important de les entendre. Alors, souvent de le dire à cet âge-là, c'est très important, parce qu'à ce moment-là, on peut les entourer d'une affection soutenue, les encourager dans ce qu'ils savent faire, les soutenir dans leurs désirs et tout cela. Mais je crois que c'est très important de ne pas se boucher les oreilles, même si c'est dur à entendre pour des parents, c'est pas marrant, mais du fait que ça, c'est une réalité éprouvée, à laquelle on peut être sensible, et que d'être sensible, c'est déjà une réponse au malaise de l'enfant. Vous voyez ?
Eh oui. Camille est avec nous. Camille, est-ce que quand tu travailles mal à l'école, que tu as des mauvais résultats, avant que tu arrives à rattraper ce retard-là, est-ce que c'était difficile pour toi ? Est-ce que ça te rendait malheureux ?
Oui, parce que comme tous les autres avaient plein de bonnes notes, comme j'avais un peu de problèmes, j'étais pas le seul parce que j'avais un enfant qui était autiste, lui,
ouais,
dans mon école, mais il avait énormément de problèmes parce que en fait, comme il avait un problème, il tapait tout le monde, donc du coup il avait de gros problèmes.
Ah oui, alors ça c'est encore un autre sujet. Olivier, quand on se retrouve face à un enfant qui est en difficulté, est-ce qu'on s'en rend compte ? Vous, en tant que directeur d'école, est-ce que vous vous en apercevez ? Ou est-ce que c'est compliqué ? Ou quand on s'en aperçoit, c'est trop tard ?
Oui, on s'en rend compte. Moi j'ai des petites structures. Hein. J'ai 110 élèves et les classes sont faites à 15 élèves. Donc c'est presque du... face-à-face pédagogique. Il y a des décrochages qui peuvent se voir. Il y a des comportements qu'on analyse. Je crois qu'il faut vite rencontrer les parents à ce moment-là et trouver des solutions. Et pourquoi pas les faire quitter la structure pour quelque chose de mieux adapté encore. Et le choix de l'école, de toute façon, est toujours déterminant. Je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit Alexandra. Ça m'a semblé très important, repris par Joël Clerget. Oui à la recherche du bonheur. Moi, c'est ça le plus important. Oui à la recherche du bonheur. Oui à l'équilibre. Les gens heureux, les élèves heureux, les adolescents heureux feront des adultes rayonnants qui apporteront aux autres.
Alors, tout ce qu'on dit, Olivier, ça me fait penser à cette pub Guy de Graines, vous n'arriverez à rien dans la vie. Et finalement, voilà, il était peut-être nul à l'école, mais finalement, il avait une passion, il dessinait et il a réussi, quoi.
Ouais, et alors pour l'excellence, je crois qu'il faut mettre en place des recettes de bon sens. Hein. Tout simplement, il faut bien manger, il faut bien dormir. Il faut faire du sport tous les jours et il faut vivre dans un groupe. Et à partir de ce moment-là, vous savez, avec des enseignants qui vont vous pousser ponctuellement, notamment lorsqu'il y a des échéances en termes d'examen, eh ben vous deviendrez très bien, vous deviendrez excellent. Mais je le redis, attention.
Et Paul, le sport tous les jours, c'est pour toi ?
Ça dépend ce qu'on appelle le sport.
c'est vrai aussi qu'il y a des élèves qui sont bons à l'école, mais pas forcément au sport. Alors ça, c'est problématique. Mais bon, c'est un autre sujet. Merci en tout cas mille fois à Olivier Gouthier, directeur de l'école de Terssac, d'avoir été avec nous. On met le lien avec l'école pour que vous voyez ce qu'est l'école de Terssac. On met également le lien avec les tribulations d'un petit zèbre. Merci mille fois, Alexandra, d'avoir été avec nous.
Merci,
c'est un plaisir. Merci, puis on embrasse votre petit bonhomme, hein, bien fort, bien sûr. Et merci à Joël Clerget également, auteur de « Vivre l'ennui à l'école et ailleurs ». Merci Joël d'avoir été avec nous.
Merci à vous aussi.
Et puis à très bientôt. Vous savez qu'on aime beaucoup vous recevoir dans cette émission. Donc vraiment à très bientôt. Joël. Très belle journée. Et merci à Paul et merci à Camille.
De rien.
Et belle journée à tous. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain sur Sud Radio.
Joyeux Noël.